Comment la science et la biomécanique peuvent venir en aide pour propulser les athlètes en fauteuil roulant et même prévenir certaines blessures? On le découvre ensemble au Signal. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à cette cinquième émission d'Au Signal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le vendredi matin. Aujourd'hui, un sujet fort intéressant, un sujet dans lequel on va parler de kinésiologie, de recherche, de technologie et de course en fauteuil roulant, parce qu'on va recevoir un petit peu plus tard dans l'émission un professeur du cégep de Terrebonne, Jean-Luc Fauvel, dont le sujet de maîtrise était comment on peut perfectionner le fauteuil roulant de course afin que les performances des athlètes soient améliorées, que leur temps soit réduit et surtout qu'on diminue les risques de blessures. Mais avant tout, pour mettre la table et en apprendre un peu plus sur ce qu'est l'athlétisme en fauteuil roulant, on reçoit une vedette montante de cette discipline, Lee Leclerc, qui est en direct de Joliette en ce moment par téléphone. Bonjour Lee.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir à l'émission aujourd'hui. Donc, toi, Luc, tu pratiques la course en fauteuil roulant depuis seulement 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment ça se divise, la course en fauteuil roulant, en termes d'épreuves et de différentes sections?
Pour les épreuves, c'est comme pour les Olympiques normaux, là, de 100 mètres, 200 mètres, toutes les distances.
OK.
Mais pour en para, c'est sûr qu'on a chacun, on a des catégories différentes par handicap. Comme moi, je suis la catégorie T34, mm-hmm. la paralysie cérébrale. Il y a 33 qui est un petit peu plus affecté que moi. Donc, les vitesses sont pas pareilles, sont un peu plus lentes. Après ça, on a 4 autres catégories qui sont la 51, 52, 53 et 54. 54, je dirais, c'est le moins atteint. Donc, amputé ou pas de haut du corps marche très bien. Genre, si on n'a pas les jambes, il y en a qui sont en chaise roulante, mais le haut du corps marche très bien. 53, je dirais que ça, c'est, ils n'ont pas d'abdominaux.
OK.
Donc, ils ne peuvent pas aussi bien balancer dans leur chaise. Après ça, c'est quadriplégique 51-52. Donc, 52, c'est un petit peu moins affecté que 51. Là, je ne peux pas aller les détails les plus spécifiques, mais en général, c'est ça pour les catégories.
Puis pour se donner une idée, par exemple, les noms qui reviennent le plus souvent en tête, c'est ceux de Chantal Petitclerc et de Brent Latacos. Eux compétitionnaient dans quelle division?
Petitclerc est dans le 54. Mm-hmm. Puis Latacos, lui, c'est un 53, donc lui, il n'en a pas les abdominaux.
D'accord. Donc, Lee, on m'a parlé de toi. J'ai parlé à ton entraîneur, Richard Tétrault. Tu t'entraînes à Saint-Laurent, à Montréal. Puis, il m'a parlé de toi comme une vedette montante du para-athlétisme. Tu as eu un été pas mal chargé. Tu as abaissé des records. Après ça, il y a quelqu'un d'autre qui l'a diminué à nouveau. Puis, tu l'as récupéré une nouvelle fois. Est-ce que tu peux me parler de cet été un peu fou que tu as vécu?
C'est sûr que mon premier but cette année, si je voulais le record canadien, j'arrivais ça à l'avoir. Je l'ai réussi à l'avoir. Comme on disait, deux semaines après, il y a quelqu'un qui est venu chercher avec moi. Mm-hmm. J'avais battu mon temps moi-même, mais lui m'a battu de 2 secondes sur cette course-là. Après ça, je l'ai rebattu de 3 secondes, puis je l'ai rebattu encore une autre fois encore à 2 secondes moi-même.
Est-ce qu'il y a une rivalité qui existe avec ce concurrent-là ou bien cette bonne guerre-là?
C'est de bonne guerre. On s'amuse. Là. C'est compétition. Au Canada, on est les deux tops de 34. Fait que là, c'est sûr qu'on veut tous les deux se battre. Là. l'année prochaine, on va avoir un petit peu plus de compétition. Là.
Donc, il y a on le devine hein, parce qu'on approche prochainement là, des Jeux paralympiques de Tokyo. On a parlé ensemble des 200 mètres, les 800 mètres, mais également une épreuve qui est le 1500 mètres. Est-ce que, puis semble-t-il que c'est une des épreuves dans lesquelles tu excelles. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
Le record canadien, c'est dans le 1500 mètres que j'ai
fait. C'était dans le 1500 mètres.
Oui, c'est dans le 1500 mètres. C'est sûr que c'est plus. Il y a plus de tactique un peu parce que, comme si on ferait 100 mètres, on est tous dans notre couloir puis on fait la course. 200 mètres, 400 mètres, c'est toujours dans le même couloir. Après ça, 800 mètres puis 1500 mètres, on a d'autres athlètes, on se suit tous dans un couloir. On essaie tous se mettre dans le premier puis ils se suivent. Donc, pour le positionnement, il faut que tu sois bien placé. Si tu es en avant tout le temps, tu deviens plus fatigué. Donc, il y a plus de tactique. Uh-huh. C'est une course quand même assez longue. Mais j'adore ça, là, l'ambiance, n'importe quoi peut arriver dans ces courses. Il y a plus de changements. si quelqu'un décolle plus vite, ben il faut pas que tu manques ta shot. Ben, si tu le manques, ben tu l'auras pas.
Ouais.
Beaucoup de.
Il y a beaucoup de ramifications. Est-ce que c'est celle que tu préfères parmi toutes les quais dans lesquelles tu prends part?
Je te dirais que le 400 mètres, c'était mon préféré l'année passée parce que c'était mon plus performant. Mais là, depuis que j'ai commencé à travailler avec du monde, comme à 1800 mètres puis 1500, j'aime bien ça. C'est différent, mais je dirais pas que j'ai un préféré. Là. Toutes les courses, je les aime bien, à part le 100 mètres parce que c'est le plus bas, le moins vite que j'ai. Donc, okay. Ben, je le pratique pareil. Là. On fait tout un départ en quelque part. Fait qu'on n'a pas le choix.
Donc, est-ce qu'on devine que la force dans ton jeu, c'est davantage l'endurance? Tes temps sont meilleurs dans les plus longues distances?
Oui, jusqu'à maintenant, oui.
Contrairement à d'autres athlètes que je devine que c'est la première poussée là où il trouve un certain avantage.
Oui, il y en a beaucoup qui ils décollent bien plus vite que moi, mais moi, j'ai une vitesse un peu plus rapide. Donc, quand je la tiens après, ben je la rattrape. Ça dépend des. Il y a tellement de personnes différentes aussi. C'est ça qui est le fun dans le sport.
Oui, c'est ce qui est très particulier. Parce que j'ai fait une pré-entrevue avec Jean-Luc tout à l'heure, puis on disait, il n'y a pas de. Tu sais, quand on parle d'athlétisme aux Olympiques, les gens qui courent le 100 mètres, le 200 mètres, il y a comme un gabarit assez régulier qu'on retrouve chez les athlètes qui font tous à peu près la même taille, tous à peu près le même poids. Mais dans le paralympisme puis le para-athlétisme, il y a une plus grande diversité des compétiteurs, j'ai l'impression, non?
Ben, c'est dur, parce que juste moi puis l'autre progression, on compétitionne beaucoup, on est dans la même catégorie, mais déjà, on n'a pas le même handicap. Fait automatiquement, c'est pas tout à fait pareil quand on est dans la chaise. Notre poussée, il y a toutes les différences, tout le monde. Si on a les bras plus grands que moi, ou tout ça affecte toute la poussée. La poussée, c'est affecté, ben le placement dans la chaise aussi, ça l'affecte. Tellement de petits détails, fait qu'on peut pas être pareil personne.
Ça doit être un casse-tête, parce que là, ce que tu me dis, c'est que même à l'intérieur même des catégories, c'est pas nécessairement le même handicap. Toi, tu as parlé que tu avais la paralysie cérébrale.
Oui.
Les autres compétiteurs, est-ce que tu sais quel type de handicap? Puis disons, est-ce que ça peut être des amputations? Est-ce que, par exemple, tu as déjà compétitionné dans une même catégorie contre quelqu'un qui a une amputation?
Dans ma catégorie, non. Mais j'ai déjà coursé contre les autres catégories. Là, il y a des courses quand même ouvertes, fait que c'est tout mélangé.
Mm-hmm.
Ça, j'ai déjà fait. Mais dans ma catégorie, j'en ai pas vu. Je dis pas qu'il n'y en a pas de cas, mais j'en ai pas vu encore.
OK. Juste avant, on va aller rejoindre prochainement Jean-Luc par téléphone, mais j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler avec toi de ta préparation, parce que ton objectif, c'est évidemment de te rendre à Tokyo pour les Jeux paralympiques de Tokyo, oui, de 2020, c'est-à-dire. Ça fait seulement 2 ans que tu as commencé l'athlétisme en fauteuil roulant. Est-ce que tu peux me dire ça s'est passé comment ces 2 dernières années-là, alors que prochainement, tu aspires à te rendre aux Jeux paralympiques puis représenter ton pays?
Jusqu'à maintenant, tout se débrouille. Ça va très, très bien. Je m'améliore plus vite que quand j'ai commencé. Je ne m'attendais pas à me rendre aussi loin, aussi vite que ça.
Mm-hmm.
Donc là, ça va bien. Cette année, j'ai fait les Jeux du Canada. Très bien été. J'ai remporté 2 médailles de bronze. Je me rappelle, 100 mètres, 400 mètres, excusez.
Tu en as trop de médailles.
C'est ça, 200 mètres puis 400 mètres, excusez. 200 mètres, 400 mètres, puis j'ai le 1500 mètres, j'ai fini 4e.
OK. Puis là, c'est quoi les prochaines étapes dans ta préparation pour 2020?
Ben là, c'est sûr qu'en ce moment, j'essaie des nouveaux gants, mais la préparation, là, c'est beaucoup, il faut que je monte mon endurance, puis il faut que je travaille beaucoup.
Je pense qu'on vous a peut-être perdu, Lee. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous m'entendez?
Non, je vous entends.
Oh, OK, très bien. On vous a perdu pendant un instant, mais vous êtes en train de parler des gants que vous testiez, puis que là, vous testiez votre endurance également.
Oui, je teste l'endurance, puis là, on va travailler fort sur les départs, parce que quand je fais une course, puis si je suis pas capable de suivre dans le premier semble.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas toujours facile.
Oui, je comprends.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de la technique de pousser. On s'améliore tout le temps. Il y a des petits touch-ups qu'on fait nous-mêmes. Parce que je peux avoir les meilleurs coachs, mais aussi chaque personne pousse différemment, comme on disait. Donc, j'ai beaucoup d'améliorations, juste d'expérience à gagner. Là. C'est surtout ça que je fais. Mais il faut que j'améliore mes temps. Là. Donc, plus fort, je vais sûrement commencer à m'entraîner pour avoir plus de force. Là.
Très bien. Puis bon, parmi votre entraînement, ton entraînement, Lee, tu as également fait la rencontre de Jean-Luc Fauvel. On va pouvoir échanger avec lui, en fait, sur... qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, pour aider les athlètes comme toi et les autres athlètes en fauteuil roulant de course à améliorer leur performance? On s'en va le rejoindre. Il est à Terrebonne. On sera de retour dans une petite seconde. Restez là. Ne paniquez pas, restez là. On a un petit problème de connexion avec nos deux invités qui sont par téléphone. On s'en va tout de suite régler ce problème et on sera de retour dans quelques instants au Signal. Jean-Sébastien est en train de régler le problème. On a de la difficulté à rejoindre nos deux invités, Lee Leclerc, avec qui on vient de parler, et également Jean-Luc Fauvel, avec qui on devrait être capable de s'adresser dans les prochaines secondes. Hein, c'est les joies du direct. Mais, ben, changement à l'horaire. Je vais simplement vous lire les actualités que j'avais réservées pour la fin de l'émission. En attendant, ça va faire un petit intermède. Tout d'abord, bien, bonne nouvelle, même s'il est passé à côté de son objectif d'obtenir une médaille en compétition individuelle à l'Open mondial de boccia présenté à Bangkok en Thaïlande. Marco Di Spaltro était tout de même satisfait de ses performances puisqu'il s'est arrêté en quart de finale de la classe BC4 lundi. Le para-athlète de Saint-Jérôme, cinquième au classement général, a été éliminé du tournoi par le Sud-Coréen Si-Yoon Siok, futur médaillé d'argent. Mon parcours s'est terminé assez abruptement aujourd'hui. Ça a été un match où nous faisions un point chacun. Les marques ont été de 2-0, 2-1 et 2-2. En prolongation, c'est lui qui a remporté le bris d'égalité avec sa dernière balle. C'était vraiment très proche. Di Spaltro a avoué que le dénouement de cet affrontement était tout de même frustrant pour lui. Je sais que je suis du même niveau que mes adversaires et il ne me manque vraiment pas grand-chose pour atteindre le podium. Je vais redoubler d'ardeur et ou en entraînement pour me permettre de rivaliser avec les meilleurs au monde. En général, c'était une bonne compétition, mais je n'ai pas atteint mes objectifs. Ça a été chouette quand même, a-t-il ajouté, lui qui avait récolté le bronze en double avec son partenaire Julian Chobanu vendredi. Dimanche, Di Spaltro a fait match nul 4-4 face au Chinois Yuan Xingjiang. Il a ensuite remporté 5-4 le match sur le Sud-Coréen Won Siok Biop et 4-3 sur le Thaïlandais Ponchok Laripen. La veille, le Québécois a perdu 6-3 contre le Taïwanais Quang Hang Dong, l'éventuel champion. Le bronze est revenu à un autre représentant de la capitale, Lung Yuk Ming. De son côté, l'aventure de Chobanu a pris fin dans les préliminaires. Le Montréalais a signé une fiche de 1 victoire et 3 défaites, ce qui lui donnait le 18e rang. Le Québécois s'est d'abord incliné 3-1 contre le Japonais Shun Izaki samedi. Il a rapidement mené le jeu, mais n'a pas été en mesure de garder son adversaire à distance. Chobanu a perdu son record d'affrontement face à la Thaïlandaise Nunchanin Ponsila, gagnante par la marque de 7-2. C'est un texte de Sportcom. Maintenant en natation, le natif de Québec Nicolas Guy Turbide a abaissé un record des Amériques et un record canadien pour conclure l'Open du Canada de paranatation se déroulant au Centre sportif panaméricain de Toronto. Turbide a mis la main sur son premier record. Il a amélioré son meilleur temps personnel par plus de 2 secondes, réalisant un temps de 2 minutes, 15 secondes et 6 centièmes. À mesure que la compétition avançait, mieux je nageais, a dit Turbide. Je n'aurais pas pu demander mieux ce soir. J'ai amélioré mon record des Amériques aux 200 mètres par plus de 2 secondes. Ce n'est pas chose courante. Le nageur de 20 ans a ensuite abaissé le record canadien aux 100 mètres libres S13. Il améliore ainsi l'ancienne marque détenue depuis 1999 par Brian Hill, avec son temps de 56 secondes et 35 centièmes. C'était une super compétition et une excellente façon de conclure la saison. Je sais que ce que je dois améliorer dans les prochains mois pour être meilleur encore l'été prochain. 4 autres records sont tombés mercredi. Aurélie Rivard a abaissé le record des Amériques aux 200 mètres QNI. Jonathan Dielman, Tani Cunnington et Abby Tripp ont abaissé les records canadiens aux 150 et 100 mètres. Rivard de Saint-Jean-sur-Richelieu a écrasé son propre record des Amériques aux 200 mètres par plus d'une seconde. Son temps de 2 minutes 28 secondes et 93 centièmes améliore donc son ancienne marque de 2 minutes 30 secondes. C'était un texte de Natation Canada. Maintenant, en athlétisme, Alexandre Dupont a signé le 13e meilleur chrono de la course en fauteuil roulant, disputé dans le cadre du marathon de Chicago dimanche en Illinois. L'athlète de Saint-Georges de Clarenceville a enregistré un chrono d'une minute 31 secondes, abaissant sa marque d'une heure 31 minutes et 27 secondes, pardonnez-moi, abaissant sa marque personnelle de 2 minutes. Ben, parlant de parathlétisme, on peut maintenant aller rejoindre nos deux invités qui sont au bout du fil. Je remercie Jean-Sébastien qui a réussi à régler le petit problème technique. Donc, j'ai Jean-Luc et Lee au téléphone, c'est bien ça?
Oui.
Bonjour, messieurs.
Oui, bonjour, Kevin.
On est très heureux de vous retrouver en onde. Jean-Luc, est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord peut-être quel lien qui vous unit avec Lee ou pourquoi vous l'avez déjà rencontré dans votre parcours, vous qui êtes professeur au cégep de Terrebonne et qui avez fait une maîtrise sur l'ergonomie des fauteuils roulants de course?
Voilà, donc c'est dans le cadre d'une recherche, dans le cadre d'une maîtrise à l'Université du Québec à Montréal, en ergonomie et avec un deuxième volet en biomécanique, si l'on veut, que j'ai fait mes travaux l'an dernier. Et bien sûr, au Québec, il y a une vingtaine d'athlètes environ là, qui pratiquent ce sport-là, le fauteuil roulant de course. Et dans la région de Montréal, il y a un club, le club Saint-Laurent Select, qui a, pour sa part, 6-7 athlètes environ dans son club. Mm-hmm. Et bien sûr, j'avais besoin de travailler avec les gens, bien sûr, les principaux intéressés, les athlètes. Et c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec toute l'équipe d'entraîneurs et d'athlètes de Montréal.
Parce que c'est la principale qualité d'un ergonome, en fait, c'est d'aller sur le terrain et non pas rester en laboratoire pour pouvoir voir comment ça se passe véritablement avec les athlètes ou les travailleurs.
Exactement. C'est la règle d'or, si l'on veut. On n'est pas assis dans un bureau, nous, avec le savoir infus. On se déplace et les meilleures personnes pour nous parler de leur activité, c'est bien sûr les utilisateurs eux-mêmes. Dans ce cas-ci, vu que c'est pas dans le cadre d'un travail, si on veut, le travail étant une entreprise, c'est dans le cadre du sport. Alors, oui, tout à fait. Il faut se rendre sur le terrain, il faut rencontrer les gens, il faut les observer. Ce sont les meilleures personnes.
Lee, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience-là avec Jean-Luc Fauvel?
Je connaissais plus de choses que je pensais au début. Parce que là, il me posait bien des questions, ça a l'air que j'en connaissais. Je suis bien content là-dessus, mais j'ai bien appris sur le tout ce que vit de tout le monde. Ça donne des points de vue différents, donc ça me fait penser à améliorer comment ma technique ou pousser mieux. Il y a tellement de petites choses que je pourrais donner, là.
Parce que c'était ça l'objectif, Jean-Luc, de votre maîtrise, c'était de donner des conseils sur comment propulser son fauteuil roulant pour améliorer les performances, réduire les blessures?
C'est par la bande, parce qu'après mon étude, bien sûr, il y a eu des recommandations. Pardon, je m'excuse. Le but principal, cependant, ça peut sembler très technique, mais c'était de développer une roue de fauteuil roulant de course instrumentée. Donc, une roue qui possède de l'instrumentation électronique pour donner de l'information. Je vais simplifier là, sur la façon dont les gens poussent avec leur roue. Parce que Quand on compare, les gens qui nous écoutent peut-être n'ont jamais vu de fauteuil roulant de course. Alors, un fauteuil roulant de course, c'est très, très différent du fauteuil roulant classique que les gens utilisent à tous les jours. Le fauteuil roulant classique a deux grandes roues d'environ 24 pouces, disons 60 cm de diamètre, et à l'avant, deux petites roues. C'est ce qu'on voit normalement un peu partout. Le fauteuil roulant de course, lui, moderne, le contemporain, celui qui est utilisé aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'il a évolué beaucoup depuis une trentaine d'années, c'est un fauteuil avec deux grandes roues à l'arrière qui sont inclinées, donc il y a un angle pour avoir plus de stabilité. Les roues sont beaucoup plus grandes. Elles ont environ le même diamètre qu'un vélo, les vélos professionnels de course. Et il y a une troisième roue à l'avant qui est un petit peu plus petite. Alors, bien
au
sûr,
centre,
c'est très
celle-là,
différent.
Je pense, c'est bien ça?
Pardon?
Celle-ci, celle qui est plus petite, puis qui est à l'avant, elle est plus petite un peu, là.
Oui,
puis
également,
elle est au centre.
Oui. Donc, les gens qui font de la recherche, les professeurs, entre autres, qui m'ont encadré sur les fauteuils roulants, le but étant toujours de mieux comprendre la façon dont les gens se déplacent, prévenir des blessures, hein, bien sûr. Tout ça existe déjà dans le domaine du fauteuil roulant classique. Il y a déjà une roue qui se vend sur le marché. C'est une roue développée par une université aux États-Unis. Elle a de l'instrumentation et on retire une roue sur un fauteuil classique, on met cette roue-là à la place et on peut avoir plein d'informations scientifiques très précises.
Comme
Mais
par
ça,
exemple,
ça n'existait pas pour le fauteuil de course.
D'accord. Puis quel type de données vous allez être capable d'aller chercher avec cette nouvelle roue que vous voulez développer?
Bon, le but de la recherche, bien sûr, c'est se poser des questions, puis après ça, on découvre des choses. Moi, je ne suis pas le spécialiste de ces données-là, mais donc je ne peux pas d'emblée dire c'est exactement ceci ou cela qu'on va apprendre, mais je vous résumerai ça. On va surtout pouvoir savoir de quelle façon la force est appliquée sur la roue. De quelle façon est-ce que la personne, lorsqu'elle veut se propulser vers l'avant, elle pousse vraiment quand sa main entre en contact avec la roue du fauteuil roulant de course. Alors, cet équipement-là n'existe pas. Et pour, disons, pour démarrer ces travaux-là, du professeur M. Félix Chénier, qui aimerait avoir une roue comme ça instrumentée, l'idée était, dans un premier temps, de faire une étude ergonomique, une analyse exploratoire pour bien connaître à quoi ressemble ce sport-là, comment ça se pratique, quels sont les paramètres, comment on pousse, etc. Et c'est le travail que j'ai fait, moi, durant la dernière année.
Et éventuellement, ce qu'on se dit, c'est que ça pourrait aller, avec ces données-là, les transformer en conseils pour l'athlète en lui disant, ben, tu devrais positionner tes mains peut-être à 13h30 plutôt que 14h quand tu fais ta première poussée, par exemple.
Oui, entre autres. Ça va permettre de beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui se passe d'un point de vue, entre parenthèses, scientifique, là, physique, quand les athlètes se propulsent en fauteuil roulant.
Wow.
Le but ultime étant toujours, on veut prévenir des blessures, mais du même coup, il y a un but à l'arrière. Tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là, ben, le but premier, c'était le mien également quand j'ai choisi ce sujet-là, c'est de venir en aide aux personnes, les gens. Les gens, c'est important. C'est ça qui m'attirait, travailler près des gens. Et puis, le fauteuil roulant, ben, c'est un outil merveilleux pour les gens qui ont des limitations. Et pourquoi pas faire du sport? Parce que toutes les personnes qui ont des limitations et qui sont assises sur un fauteuil roulant, tous les jours, ne sont pas différents de nous, les personnes debout, entre parenthèses, comme moi, qui ai mes deux jambes. Si on ne fait pas d'exercice physique, on risque de développer des maladies qui sont liées au sédentarisme.
Est-ce que vous pouvez, Lee Leclerc, est-ce que tu peux me parler peut-être des blessures ou des risques de blessures qui sont encourus par les personnes qui pratiquent ton sport?
C'est sûr que juste dans chaque joint qu'on a dans le bras, le poignet, le coude puis l'épaule, on cogne quand même assez souvent sur les roues. À peu près, je dirais, trois fois par seconde en moyenne, à peu près. Fait que, c'est quand même souvent, donc c'est répétitif. Avec l'usure, on peut les cogner et amener des blessures. Comme moi, je me suis fait mal à une épaule parce qu'elle était plus faible d'un côté. Ça reliait avec ma démarche de tous les jours. Fait que, avec le temps, elle s'est développée moins bien d'un côté, donc ça m'a poussé à s'émaganer l'année passée. Mais cette année, tout va bien. Fait que, tant mieux.
Est-ce que ça t'enthousiasme de savoir que des chercheurs puis des personnes travaillent à améliorer l'équipement de ton sport comme Jean-Luc le fait?
Ben c'est sûr, c'est parfait parce que si oui, tout va bien puis on s'améliore, ben après ça, nous autres, on va pouvoir faire le sport plus longtemps. On s'est mieux poussé, donc on va pouvoir le pratiquer plus longtemps, le pratiquer mieux, puis être plus performant en même temps. Fait que tout vient avec, fait que ça serait parfait là, comme technologie.
Super. Puis est-ce que tu peux me parler également, terminant, par exemple, est-ce qu'il y a une... Puis je pose la question aux deux. Est-ce qu'il y a une différence chez les athlètes qui ont une sensation ou non dans leurs jambes de passer de longues durées dans un fauteuil roulant de course qui n'est pas nécessairement très confortable? Est-ce que ça peut également créer des blessures ou engendrer des problèmes de santé?
Moi, personnellement, moi, je dis que oui, c'est sûr. Je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai commencé dans ma chaise de course au début, elle n'était pas tout à fait adaptée pour moi. Donc, je faisais un 10-15 minutes, puis j'avais bien de la misère à... Je ne pouvais plus tenir debout après pendant une demi-heure quasiment. Donc, juste là, ça paraît. Mm-hmm. Moi, j'ai ça, mes jambes, mes jambes sont un peu plus grosses que les ceux qui n'ont pas de muscles développés. Donc, ça paraît. Les autres, ils ne sentent pas. Fait que la seule chose qui arrive pour ceux qui sont en chaise roulante de tous les jours, on va dire qu'ils n'ont pas de sensations sur les jambes, c'est que des fois, ils ont des plis, puis ils ne sentent pas, puis ils font des brûlures ou des des plaies de chaise. Faut faire attention. Ça, donc, les coachs, souvent, ils portent plus attention à ces affaires-là parce que l'athlète ne le sait même pas qu'il fait mal. Il faut qu'on toujours regarde ça.
Jean-Luc, un mot là-dessus en terminant, peut-être, maintenant que le temps nous manque?
Oui, bien sûr, pour que les gens comprennent, le sport en fauteuil roulant de course est ouvert à des gens qui ont des limitations, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des gens qui ne possèdent pas le contrôle de leurs deux jambes, de leur segment inférieur. Par exemple, il y a des gens qui marchent debout, mais ont peut-être une limitation qui fait qu'ils ont un handicap, une limitation qui permet de ne pas marcher normalement, si on veut, entre parenthèses.
Alors, Jean-Luc, je suis désolé, je vais devoir vous arrêter. L'émission tire à sa fin. On a manqué de temps, mais on va vous réinviter. Merci beaucoup.